Il est donc 8h passées de 3 minutes et je suis en excellente compagnie avec Marie Vormeeren et Salomé Richard.
Bonjour.
Bienvenue Marie et Salomé, merci d'être venus ce mercredi matin dans les studios de Radio Panique pour nous parler de la 13e édition du festival Elle tourne d'Amesdraaien. Et donc, on connaît ce festival ici à Radio Panique, mais dites-nous tout sur cette 13e édition qui, confinement oblige, aura lieu en façon online.
Online, c'est-à-dire en virtuel. Mais attention, virtuel ne veut pas dire n'existe pas. Hein?
Non.
Ça, mais on doit changer nos systèmes.
Du coup, rien ne vous arrête.
Non, rien.
C'est pas un petit confinement, la fermeture des cinémas, des lieux culturels, voilà. Tout ça ne vous arrêtera jamais.
Au contraire.
Au contraire,
ça
vous êtes.
Attise notre énergie.
Voilà. Et avant de commencer sur la programmation et cette 13e édition, comment ça s'est passé cette dernière année? Marie, tu étais déjà là pour nous parler de la 12e édition l'année dernière.
La 12e édition s'est très très bien passée. En fait, on était le dernier festival avant le confinement. Donc, voilà. Et pour nous, c'était un peu difficile parce qu'on avait beaucoup de... Donc, pendant toute l'année, on fait ce qu'on appelle les OTR, donc les On the Road, on part et... On va présenter des films réalisés par des femmes un peu partout. Et c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on n'en a eu aucun, évidemment. Donc, tout était annulé. Et d'habitude, l'année d'avant, on a fait quand même 65 ou 69 séances. Et donc là, plus rien.
Et cette année-ci, vous n'avez rien fait. Mais vous avez continué à garder parce que ces séances on the road, elles se font en lien justement avec de nombreux partenaires, associations et tout ça. Vous avez maintenu ces contacts.
On espère, mais tout le monde est en attente en fait. Oui, on tient des contacts, mais tout le monde est en attente. Et se dit, on ne sait pas bien ce qui va se passer, on va voir. On a déjà des choses prévues pour mars, mais bon, on rigole quoi. Parce que disons que c'est prévu pour mars. C'est déjà prévu pour avril aussi, mais on va voir.
Vous verrez bien. Et du coup, comment ça s'organise en festival online à partir de... Est-ce que vous avez douté à un moment que ça pourrait se faire ou d'emblée, vous vous êtes dit bah, qu'à cela ne tienne, si on ne peut pas être in situ, eh bien on sera...
Non, on n'a pas... Non, on est resté encore avec l'idée du présentiel dans le cinéma puisque je crois que fin octobre, on a imprimé les dépliants, les flyers. Mais il n'y a pas de café pour les distribuer, hein, mais voilà. Et donc, 15 jours après, on a appris que tout était fermé. Donc, on a dû changer le flyer, demander à la graphiste d'écrire un grand online sur l'image. Voilà, donc...
Mais du coup, vous aviez préparé, puis vous...
On a préparé, bien sûr.
Vous vous disiez...
Et même, on s'est dit, on ne sait jamais, comme on fait toujours l'ouverture au Beaux-Arts, si le Beaux-Arts ouvre... On va quand même le faire, mais maintenant le Beaux-Arts a brûlé, donc...
Oui, c'est une très mauvaise nouvelle, quand même.
Terriblement mauvaise.
C'est horrible.
Oui.
On ne peut pas rire avec
non,
ça,
pas
Marie.
Du tout. Pouf, quelle horreur.
Oui, je me suis dit, en apprenant la nouvelle, je me dis, mais c'est quoi tous ces bâtiments qui brûlent alors qu'on en a besoin encore?
Oui.
Mais du coup, est-ce que ça a facilité aussi l'organisation? On sait que chaque année, au-delà des films, il y a les projections et donc il y a souvent la présence de réalisatrices invitées. Et donc, est-ce que le fait de faire tout online, est-ce que ça a facilité justement la mise sur pied de ces contacts, enfin de la présence des réalisatrices et autres invitées?
Mais c'est pas tellement que ça a facilité, ça a changé, ça a dû être transformé. Je veux dire, créer une plateforme de rencontre entre les réalisatrices du monde entier, comme on avait, où c'était vraiment notre truc d'inviter ici une réalisatrice pendant le festival. Toutes les réalisatrices dormaient chez l'habitant, enfin une organisation incroyable. Et maintenant, ça va être en présentiel, donc c'est tout à fait différent. Donc, elles ne vont pas être là pendant tout le temps, par exemple. On ne peut pas discuter. Oui, pendant le temps du panel, mais... Voilà, c'est en fait autre chose. Et la même chose pour le travail. Enfin, je veux dire, travailler en face à tout le monde, la même chose. Le télétravail, c'est pas... Quand on est un collectif, c'est un peu difficile quand on travaille dans son coin, alors qu'on discute tout le temps. Normalement, on travaille ensemble. Je veux dire, le partage d'énergie est un peu différent. Il faut tout inventer. Tous les jours, j'ai l'impression qu'on invente quelque chose.
Et donc, cette année, il y a les projections de films et il y aura des panels en ligne. Donc, le festival commence demain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les différents panels? Il y a visiblement, les titres sont en tout cas très alléchants. Elles s'animent, toujours en mouvement, agir pour la paix, et là-bas. Un focus Iran aussi, donc dis-nous en plus, Marie.
Mais en fait, ça fait référence à des films qu'on présente. Donc, focus Iran, évidemment, on aura les trois réalisatrices de trois films iraniens qu'on présente, enfin, un long et deux courts. Toujours en mouvement, en fait, c'est une réflexion par rapport à la documentation qu'on peut faire, documentation filmée qu'on peut faire sur le mouvement des femmes. Donc, on passe un film sur le mouvement des femmes des années 70 à Louvain. Un autre film croate sur le fait que... Ça, c'est aussi terriblement intéressant. Donc, le film parle de... En mars dernier, en Croatie, c'était comme ici. Donc, tout est confiné. Et le 22 mars, il y a eu un énorme tremblement de terre. Mais comme tout était confiné, rien n'a bougé. Et ce qui se passe, c'est que le mouvement des femmes là-bas... Toutes les associations de femmes se sont mises ensemble et ce sont les premières qui ont bougé. Il faut dire aussi que le refuge pour femmes battues s'est écroulé, donc il fallait trouver tout de suite. Et il n'y a pas eu d'aide, parce que tout était figé. En fait, elle raconte tout ça dans le film. C'est vraiment une demi-heure de très, très fort. Quoi. Et elle sera là aussi, Daniela Stanojevich sera là pour le panel. Et donc, on va réfléchir à l'importance, lors de ce panel, l'importance documentée le mouvement des femmes et les actions. Et donc, il faut quand même, dans le history, il faut quand même un peu de her story. Voilà.
Oui, c'est ça. C'est...
Voilà, parce que l'histoire est écrite, on sait très bien, pas par les femmes. Il faut que, s'il n'y a personne qui le fait, nous, on doit le faire. Et en fait, les films servent à ça aussi.
Oui. Du coup, je ne sais pas comment tu veux présenter, comme tu le dis, ça se répond. D'habitude, il y a des moments phares qu'on connaît au festival, il y a les courts-métrages, il y a les...
Oui, mais ici, par exemple, tu parlais de Elsanim, on a une séance uniquement avec des films d'animation. Donc là, on passe 9 films et le panel sera évidemment avec des réalisatrices de ces films-là. Et comme en Belgique, on a de très bonnes réalisatrices qui font de très bons dessins animés, elles seront présentes aussi.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, au niveau organisation, il y a la séance de projection et puis le panel ou c'est déstructuré?
Complètement. Ça, c'est un avantage. Il y a quand même des avantages, heureusement. Donc, du 21 demain au 29, tous les films sont visibles gratuitement. Donc, on peut voir tout le programme et on a 9 jours pour voir tout.
Et donc, on peut regarder les films quand on veut
quand
ou
on
c'est
veut,
des moments...
Quand on veut et où on veut aussi.
Oh. Ah oui. Et donc, il faut s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Festival Scope.
Oui, oui. Et Festival Scope, en fait, c'est terriblement intéressant. C'est Creative Europe qui a créé ça. Et je crois que Arte aussi va un peu avoir là-dedans. Et vraiment, ils sont d'une grande aide. Donc, c'est pour les festivals européens. C'est vraiment impressionnant.
Et donc, pour les auditeurs, auditrices, les spectateurs et spectatrices, il suffit de s'inscrire et puis après on va sur la plateforme et on choisit les films.
Oui, on reçoit l'accès et on peut voir tous les films.
Ok.
On
donc c'est
sur la petite image et puis on peut voir le film.
Et gratuitement. Donc.
Et gratuitement.
Et j'ai une bête question. Comment vous allez vous retrouver si vous faites ça gratuitement?
Mais ce qu'il y a, c'est que normalement, ça a un coût de faire venir des films, de faire tout ça. Et aussi de faire venir toutes les réalisatrices. On n'a pas ça, en fait.
Voilà, donc l'un dans l'autre.
Alors, l'un dans l'autre, on peut alors le faire gratuitement. Bon, ça n'empêche que tout le monde peut toujours cliquer sur... S'il vous vient à l'envie, une petite donation est toujours bienvenue.
Ah, voilà, c'est ça.
Donc... Parce que, à nouveau, on paye quand même tous les films. Donc,
Oui, oui. Mais c'est vrai
même
que...
Si c'est pas beaucoup, mais on paye quand même tous les films.
Que je ne sais plus à quelle autre occasion, il y avait aussi des diffusions, je pense que c'est un autre festival ici à Bruxelles, je me demande si ce n'était pas le Pink Screen ou je ne sais plus lequel, qui faisait payer les séances, mais je ne suis pas sûre que c'était le Pink Screen. Mais... Et du coup, j'avais entendu beaucoup de commentaires qui disaient « oui, payer pour regarder un film chez soi ». Après, il y a une certaine normalité à devoir rétribuer aussi le travail
non,
qui est, non, qui est fait, l'engagement.
Non, enfin, je veux dire, moi, j'ai pu bénéficier comme ça quand je vais sur des festivals en France ou un truc comme ça. Il faut donner un petit... Enfin, je sais pas, moi. Chacun a son...
Oui, oui, c'est ça, un prix voilà. libre, voilà. volontaire et voilà. en conscience, comme voilà. on dit. Mais du coup, on s'inscrit sur Festival Scope et
bien,
on peut...
sur notre site. Hein.
Oui.
Donc, oui.
Je l'ai déjà fait.
Ah, pardon. Ah, voilà. Okay.
J'ai testé...
Ça marche.
Ça marche en tout cas, sauf que je pouvais encore rien voir visiblement,
ah,
puisque
non,
c'est à partir de demain.
Voilà.
Mais donc, est-ce qu'on ferait un tour du côté des différentes choses qu'on peut voir justement ?
Oui. Donc oui. En fait, on a trois fictions, une du Chili, une de Chine et une de Russie. Donc je crois qu'on couvre un peu la planète.
Oui.
Et on a 5 ou 6 documentaires. Mais enfin, je veux dire, il y a des. Oui, il n'y a pas des coups de cœur, mais c'est des espèces. Enfin, c'est un peu comme d'habitude. Hein. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le contenu, ça appartient au film. Mais c'est en fait aussi le processus créatif. C'est comment d'un départ, on arrive au produit final. Par exemple, le film russe, c'est une comédie, c'est son premier film. À la réalisatrice. Et c'est une comédie. Moi, j'ai vu beaucoup de films dans ma vie, mais je crois que j'ai encore jamais vu une comédie russe. Donc, nous, on ne voit pas des comédies russes ici. Et il y a une liberté de ton que la comédie permet, que d'autres films ne permettent pas. Donc, c'est une espèce de...
Mais c'est vrai ce que tu dis, quoi. Donc, quand on parle de films russes ici, on ne pense pas du tout à la comédie.
Donc, voir ça, c'est un côté d'abord très rafraîchissant, parce que c'est fantastique. Mais en plus, en voyant le film, moi, je me disais, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu un film russe comme ça. Le ton, la couleur, tout quoi. Tout est différent.
Et donc, ça s'appelle Seven Wishes.
Oui, Seven Wishes. Et il y a aussi de First Beer Garden in Téhéran, donc la première brasserie à Téhéran, où l'histoire de Sherazade. Ça, c'est un film iranien. Enfin, c'est une Iranienne, elle habite en Allemagne. Et c'est un documentaire, on suit 4 personnes. Mais c'est Sherazade qui raconte, en fait. Enfin, c'est raconté comme. J'ai lu une critique où on disait « Oubliez tout ce que vous connaissiez de la narration avant de voir le film, parce que c'est tout à fait étonnant. » Elle raconte d'une autre histoire. Elle mélange du dessin animé, elle mélange de la fiction, elle mélange du docu. Enfin, on est... Et une des protagonistes est une jeune femme qui habite en Allemagne, qui est iranienne d'origine et qui veut ouvrir une brasserie à Téhéran. Et donc, il y a tous les trucs, parce que c'est l'alcool, etc. Enfin, les grandes discussions, comment faire. En plus, c'est drôle. Enfin, tu vois, il y a un truc... Ça, c'est aussi un ovni. Enfin, il y a pas mal hein, de...
Mais en général, c'est toujours un peu un ovni, les films que vous présentez, parce que justement, c'est un regard qui est un peu différent. Et du coup, ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, je veux dire, malheureusement, dans le sens où...
Oui, c'est-à-dire qu'on demande... Oui. Mais c'est vrai qu'on demande un peu de curiosité aussi au public, en fait. Parce qu'il n'y a pas... Je sais pas, oui. Ce sont des films de l'autre côté de la planète qui montrent autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc, il faut faire un petit effort. Quoi.
Oui, c'est une double surprise et double pas de côté par rapport à notre œil habituel, oui. On va dire.
On passe aussi Beyond the Visible, un film, un documentaire sur une artiste, une peintre, Ilma af Klint, qui est une peintre suédoise. Qui en fait a inventé l'abstraction. Dans le film, on voit très bien qu'elle a peint des carrés sur fond 1906, et puis on voit Kandinsky 1916, quoi. Donc, et cette femme n'existe pas dans l'histoire de l'art. C'est absolument hallucinant. Donc le film, en fait, est aussi une interrogation sur le milieu de l'art, et on peut même appeler l'industrie de l'art, et la place des femmes à l'intérieur de cette industrie. C'est absolument hallucinant. Donc, on aura aussi un panel là-dessus qui s'appelle Unforgettable Women Artists. Inoubliables, parce qu'elles ont été oubliées, évidemment. Et la réalisatrice est présente. viendra.
Elle sera,
elle sera là.
En Zoom. Et j'ai juste une question. Ces plateformes, elles permettent à des gens d'autres pays de visionner les films ou c'est il y a un
ça
petit...
Ça dépend des films et ça, c'est le distributeur qui nous impose les territoires.
Oui.
Donc, Only Belgium ou bien tout le monde entier sauf l'Amérique du Nord ou des choses comme ça. Donc, c'est en cliquant dessus qu'on voit... Enfin, nous, en Belgique, on peut tout voir, évidemment.
Oui, oui, c'est ça.
Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a déjà eu un email en demandant « Est-ce qu'on peut voir les films de l'Inde ?» Enfin, au départ de l'Inde.
Ah oui, ben c'est
Donc ça veut dire que... Ah, voilà.
Parce que c'est souvent frustrant, je trouve, de se dire « Ah, on va assister, on va regarder tel film » et puis de dire « Pas disponible dans votre région ». Après, c'est compréhensible, mais au niveau européen, parfois, c'est super frustrant.
Oui, donc il y a des films seulement belges ou enfin seulement visibles en Belgique ou en France. Mais tous les panels, eux, sont visibles partout.
Et il faut s'inscrire aussi pour les panels.
Il faut s'inscrire par panel.
Par panel, oui. Donc et ça effectivement, comme c'est des panels en direct, ça a une heure précise, les
oui,
horaires.
Oui, sauf que tout sera enregistré, on pourra tout regarder après.
Ah oui, ok. Et les panels, il y aura une possibilité aussi d'intervenir, de poser des questions comme si on était dans la salle.
Oui. Et on écrit sa question et puis la question est
diffusée. Est passée, oui, c'est toute une nouvelle façon de voir les choses, hein, ce confinement.
Complètement.
Et donc, à propos de voir les choses, ces dernières années, on a beaucoup parlé du male gaze et donc le fait que souvent dans les films, il y avait ce regard masculin qui s'attardait sur les fesses, sur les seins des femmes et qui donnait une vision du monde qui était très, très, très masculine. Et donc, de plus en plus d'autrices et de chercheuses, de réalisatrices ont voulu mettre en avant un autre regard et donc plutôt un female gaze. Et c'est dans ce cadre-là, je pense que Salomé Richard, tu vas présenter ton film, ton...
Non, en fait, c'est une collection de quatre films qui part de cette idée-là, enfin, comme tu te racontes, qui part de cette idée-là, et Salomé a réalisé un des quatre films.
C'est ça, et donc les trois autres réalisatrices sont Sarah Carlo Jaber, Juliette Klinquet et Aude Verbiguesson, avec qui j'ai collaboré pendant 3 ans maintenant, en fait, pour mettre sur pied cette petite collection. Au départ, c'est un projet qui a beaucoup évolué. C'était pas pensé comme cet objet-là à la base. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, en fait, on s'est toutes rencontrées dans le cadre du collectif Elles font des films, qui est un collectif donc de femmes, de réalisatrices, qui militent pour la place des femmes dans le cinéma et pour plus de parité à tous les niveaux, tant du côté des financements que dans la production, que après dans les festivals et dans ce qu'on enseigne dans les écoles. Donc voilà, on s'est rencontrés dans ce cadre-là et puis à un moment donné, il a été question de mettre sur pied un site internet pour le collectif. Et donc on s'est retrouvés chez l'une d'entre nous, chez Léa Rogliano à ce moment-là, qui faisait partie de notre bande. À ce moment-là aussi, il y avait Alter Égal, qui est donc l'antenne femme du ministère de l'Égalité des Chances, qui donnait une enveloppe pour faire des projets sur la représentation des femmes, tant en politique que dans la culture. Et on avait bu un coup et on s'est dit, allez, vas-y, on le fait. On souscrit à cette idée. Au départ, c'était donc pour faire un site internet, puis c'est parti complètement ailleurs. On s'est dit, ouais, vas-y, on va faire des capsules et des vidéos sur cette thématique qui nous était chère, enfin, qui nous est toujours chère, mais qui nous était déjà chère alors. Et puis, de fil en aiguille, et avec le passage du temps, et puis beaucoup de brainstorming, à un moment, on est parti en une espèce de mini-résidence d'un week-end dans la maison des parents de Sarah, à la campagne, c'était super, pour un peu se répartir les thématiques qu'on avait envie d'aborder. Les choses se sont dessinées un peu plus fermement, et puis on s'est dit qu'on allait plutôt faire le job qu'on sait faire, c'est-à-dire des films, puisqu'on est réalisatrices toutes. Et puis ça a pris vraiment la forme de courts-métrages chez chacune d'entre nous, plus que de vidéos YouTube, parce que c'est pas du tout notre médium de base. Non pas que ce soit pas un médium efficace, mais c'est juste pas le nôtre, quoi. Et donc on a... Moi, j'ai écrit une petite fiction, Aude a fait un documentaire, Sarah a fait une fiction, et Juliette a fait un documentaire à base de fun footage. Et donc les quatre thématiques qui sont abordées dans l'ordre sont... Donc le film de Juliette parle de la place des oubliés du cinéma, c'est-à-dire toutes les femmes qui ont fait des films avant 1940. Il y en a eu énormément, en fait, et elles sont complètement englouties dans l'oubli. D'ailleurs, son film s'appelle « Dans le silence d'une mer abyssale ». Et ça dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire qu'il y en a eu plein. Et à partir du moment où le cinéma est devenu une industrie lucrative, elles ont complètement disparu, elles ont complètement été évincées. Et donc, Juliette leur donne un peu voix au chapitre. Ensuite, il y a... Est-ce que c'est le mien ou est-ce que c'est celui de Sarah? Je ne sais plus. En tout cas, celui de Sarah, ça parle... Oui, c'est ça, c'est celui de Sarah, qui est une fiction qui parle des rôles qu'on donne aux femmes dans les films, qui sont généralement catastrophiques, quoi. Donc, c'est un film dans lequel j'ai joué. Et donc, c'est une sorte de road movie un peu épique pour un peu envoyer balader les standards qu'on a sur la répartition des rôles de genre dans le cinéma, et faire un peu une sorte de petit pamphlet qui milite pour donner d'autres rôles aux femmes. Ensuite, il y a mon film qui s'appelle Des bagnoles et des arbres, qui parle spécifiquement de qu'est-ce que c'est un film de femme. C'est-à-dire que Marie nous parle de son festival, qui est un festival de films de femmes. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ce genre de festival? Et qu'est-ce que c'est finalement un film de femme, concrètement, et aussi en termes de regard, justement? C'est quoi ce film Elgaz dont on parle? Non pas que j'ai la prétention de savoir ce que c'est, mais en tout cas d'essayer de mettre les choses sur la table, en tout cas. Et puis, Aude a fait le dernier, qui s'appelle Silence, s'il vous plaît, qui parle vraiment des expériences de sexisme au sein de la profession, c'est-à-dire vraiment dans tous les corps de métier un peu, et comment ça s'instancie concrètement. Par exemple, quand on est enceinte et qu'on se fait virer, ou qu'on est vraiment largement moins payé que ses collègues, ou tout ce genre de trucs, où il y a des objectifications du corps des actrices, par exemple, qui est déplorable. Enfin voilà, donc on a essayé de couvrir un maximum des axes auxquels nous on pensait. Évidemment, on n'a pas la prétention d'avoir été exhaustif. Je pense que le sujet est vraiment vaste et large, et puis qu'il est temps que les femmes s'emparent de cette parole, en fait. Donc voilà.
Oui, parce que c'est d'autant plus important qu'encore là, la semaine dernière, il y a eu cette polémique sur les prix littéraires et les oui lauréats, il n'y avait que des hommes. Et donc la réponse, c'était mais la qualité n'a pas de genre.
La qualité, en tout cas, non, effectivement, la qualité n'a pas de sexe ni de genre, mais... Dire que tout à coup il n'y a que des hommes qui font des choses de qualité, c'est problématique. Et en fait, je vais jeter un pavé dans la mare, mais tant qu'il n'y aura pas de quota, ça va continuer comme ça, en fait. Enfin, c'est complètement absurde. On a, nos regards sont biaisés, les regards des jurys sont biaisés. On a beau mettre des jurys paritaires, évidemment qu'on sait qui a écrit un bouquin et qu'on ne le lit pas de la même manière. Et pareillement pour les films, on ne lit pas les films de la même manière quand on sait que c'est une femme ou un homme qui les a réalisés. Les thématiques ne sont pas les mêmes, la façon de voir le monde n'est pas la même. Et tant qu'on restera dans des schémas et avec un regard masculin sur les choses, ça ne va pas changer. Donc il est nécessaire d'instaurer des quotas, il est nécessaire d'instaurer de la parité à tous les points de vue. Sinon, on va rester dans ces rails. Et brandir la question de la qualité, c'est, en tout cas dans le cadre du cinéma, c'est complètement absurde, dans le sens où dans les classes de ciné, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes. ne me dites pas qu'elles font toutes des mauvais films. C'est complètement débile comme, comme pensée, quoi. Et ça, je pense que Marie en parlera vachement mieux que moi, parce que ça fait des années et des années qu'elle milite pour cette cause et qu'elle sillonne le monde en, en, dans des festivals de films de femmes et qu'elle elle tape du poing.
Oui, oui, non, mais enfin, l'espèce d'interaction entre qualité et tout ça et quota, c'est impressionnant. L'association des réalisatrices allemandes, par exemple, a réussi en que politiquement, enfin par la politique, la chaîne publique de télévision allemande doit passer au moins 30% de films réalisés par des femmes. La réponse de la ARD, donc chaîne publique allemande, et bon, c'est quand même chaîne publique, c'est comme ici, donc c'est avec notre argent, enfin c'est avec l'argent des femmes aussi que cette télévision fonctionne. La réponse de la télévision a été, oui, on est obligé de le faire parce que le politique nous l'oblige, mais on se réserve dans 3 ans de faire une évaluation pour savoir si la qualité n'a pas baissé. Alors, ce qu'elles ont sorti, c'est hallucinant, ce qu'elles ont sorti comme flyer, j'en ai à la maison parce que c'était trop bien, c'est la question, est-ce que c'est la qualité, attends, quota VS qualité, donc le quota contre la qualité, ou bien plutôt la qualité par le quota.
Et alors
évidemment, c'est évidemment la qualité par le quota, mais c'est hallucinant. Je veux dire, on est en 2020, hein. On n'est pas au Moyen-Âge. Et que la chaîne publique, qui est quand même, enfin, c'est énorme, quoi.
Mais du coup, effectivement, enfin, Salomé, tu évoquais la question des quotas aussi, y compris dans les jurys, et donc c'est qui décide? Qui décide que c'est un bon film ou un bon livre, et le rôle aussi que les médias peuvent avoir, les journalistes, les critiques aussi bien de cinéma, et donc quand on entend certains critiques de cinéma bien connus ici en Belgique tenir des discours qui sont d'un sexisme et d'un... Oui. Et aussi d'un mépris envers tout ce qu'ils ne considèrent pas comme étant... la culture, avec un grand C, comme on dit, enfin, comme ils disent, c'est compliqué. Et donc, à partir du moment, enfin, tant qu'on ne déconstruit pas aussi et qu'on ne change pas.
Oui, il y a eu une étude aux États-Unis sur justement les critiques de cinéma dans les journaux. Ils ont pris les dans les 5 dernières années, les 5 plus grands journaux, donc je ne sais pas combien de milliers de critiques. Et en voyant si le film est réalisé par une femme ou par un homme, et si la critique est une femme ou un homme. La conclusion, c'est que quand c'est un homme critique et que c'est un film de femme, en général, c'est pas très bon. L'inverse n'est pas du tout la même chose. Donc, leur conclusion, c'est qu'en fait, nous, femmes, on a l'habitude de rentrer dans un univers masculin quand on rentre dans un film fait par un homme. On connaît, on sait dans quoi on est. Pour un homme, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il rejette directement
pauvre chérie.
Ce genre d'univers. Et quand on entend, enfin, je ne veux pas dire de nom, mais il y a des critiques ici en Belgique, c'est tout à fait net. C'est un rejet, quoi, en fait.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est une étude terriblement intéressante faite par l'Université de San Diego.
Et du coup, Salomé, cette histoire justement de critique dans les 4 documentaires que vous avez fait, est-ce que j'ai perdu ma question? C'est parce que Marie était un peu loin du micro et qu'on l'entendait un peu moins bien. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cette cet univers de femmes, voilà, c'était ça que je voulais poser. Est-ce qu'il y a vraiment, quand on fait un film de femmes, la question que tu poses dans ton film, c'est quoi faire un film de femmes? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Et donc, est-ce que le fait d'être femme fait qu'on a forcément, on vit aussi dans le même monde, entre guillemets, que les hommes? Est-ce que notre monde est fondamentalement différent? Ou est-ce que ça dépend? Et parfois oui, parfois non.
Alors, il y a un truc que j'aime bien distinguer, c'est pas parce qu'on est né comme des femmes qu'on fait des filles. C'est pas genre intrinsèque au fait qu'on ait une vulve tout à coup, parce que on est formé biologiquement comme ça, on voit le monde différemment. C'est pas ça. Il s'agit pas de féminin sacré, quoi. C'est juste que, en tant que fille, socialisée comme une fille ou une femme, après, on a une expérience du monde qui est différente. Donc, on a un récit du monde qui est différent, puisqu'on a une prise sur le monde qui est complètement différente de celle des hommes. Et ça, il est temps que tout le monde s'en rende compte, en fait. Simplement, on vit dans un monde qui est déséquilibré, et donc effectivement, la parole de l'autre côté, on va dire, c'est pas la même que celle de la parole dominante, quoi. Voilà, j'ai pas l'impression de dire quoi que ce soit d'étonnant ou de nouveau, mais manifestement, ça l'est encore, et c'est encore difficile pour ces pauvres messieurs d'avaler la pilule, généralement, que nous prenons, nous, depuis des années, je crois. Voilà.
Et justement, effectivement, enfin, ça fait, je pense que ça fait de toute façon 5 ans que je fais la matinale et que j'invite Elle Tourne. Et chaque année, il y a ce même constat où on se heurte à la réticence, à cette histoire de qualité, à cette histoire de, si c'est un bon film, c'est un bon film, et peu importe qui l'a fait. Mais pourtant, on continue à ne pas voir autant de films de femmes, mais aussi, et c'est la richesse du festival, quand il s'agit de femmes qui viennent en plus de l'autre bout de la planète, on les voit encore moins, on va dire, et donc c'est la double peine pour des cinéastes. Est-ce que ça revient aussi, ou bien est-ce qu'il y a des pays ou des régions où étrangement ça se passe mieux?
Oui, en fait, il y a des pays où c'est pas tellement étrange que ça se passe mieux, c'est parce qu'il y a une volonté que ça se passe mieux. Je veux dire, la Suède, ça fait 10 ans qu'ils ont mis au point un système, et maintenant, on est à 50-50 dans les subventions, dans les cinémas aussi, dans la diffusion aussi. L'Espagne a commencé il y a 7 ou 8 ans, et l'Espagne aussi augmente, en fait. Voilà, la Belgique est à la traîne, hein, ça c'est...
Ce qu'il y a aussi, et que j'ai oublié de dire, et que je pense qu'il est important, c'est que les personnes qui regardent des films sont des femmes. La majeure partie de l'audience sont des femmes. Les
60%.
Personnes qui, voilà, les gens qui vont au cinéma, c'est les femmes. Mm-hmm. Alors pourquoi est-ce qu'on s'entête encore à évincer les réalisatrices qui, en fait, parlent d'un point de vue avec lequel, a priori, en tout cas, le spectatorat peut mieux s'identifier? Je veux dire, ça a été... prouver les films qui sont réalisés par des femmes font plus d'argent au box-office que les films réalisés par des hommes, simplement parce que quand il y a une héroïne, et ça s'est vu avec Wonder Woman, ça engrosse plus d'argent, quoi. C'est pas le mot engrosser, mais ça fait rentrer plus d'argent. Et les gens ont besoin de ça, les gens ont besoin de pouvoir s'identifier aux personnages qu'ils voient, et ça a un impact énorme. Je veux dire, ça se voit avec tous les personnages racisés, c'est nécessaire. Enfin, les spectateurs, les spectatrices ont vraiment besoin de pouvoir avoir des récits et des fictions auxquelles ils peuvent s'identifier, et pas toujours un type blanc de 30 ans qui chiale la disparition de son père. Enfin, je suis désolée, mais il faut que ça change, quoi. C'est pas possible.
Oui, moi ça m'étonne aussi, en fait, normalement on est entouré de marketing, donc d'études et tout ça par rapport aux consommateurs et tout, et en fait ce sont les femmes qui consomment la culture.
Exact.
C'est la même chose dans les livres, hein. Enfin, et quand moi je vais au théâtre, je suis tout le temps étonnée, je me dis c'est peut-être parce que moi je vais voir des pièces spéciales ou je sais pas quoi, mais je suis étonnée que là c'est vraiment une majorité de femmes, donc c'est un peu... Donc là le marketing ne change rien.
C'est pas... Plus c'est consacré comme industrie, on va dire, parce que c'est la culture, c'est vraiment très précieux, hein, c'est l'art, il faut pas toucher. Plus c'est conservateur, en fait, généralement, et moins c'est paritaire, du coup.
Bah, enfin, on le voit aussi un petit peu dans les 4 films de la collection. Je veux dire, le système hiérarchique de travail sur un tournage, tu n'as plus ça dans un bureau maintenant, hein, où en fait ce sont des groupes de travail. Avec un chef de travail, enfin un chef c'est de ça. Groupe, mais c'est tout à fait différent. C'est pas.
Tu veux dire quoi par là, Marie? Parce que j'ai pas bien compris.
Par exemple, sur un tournage, il y a une hiérarchie assez impressionnante. tu peux parler à ton chef, mais tu peux pas, tu es obligé, enfin, si tu veux dire quelque chose, tu dois parler à ton chef, qui lui alors le dira.
À son chef.
À son chef. Tu peux pas passer directement, enfin, c'est pas du tout une plateforme, en fait.
C'est pas très horizontal, non.
C'est très moins compliqué.
Il y a une dimension que j'ai dont j'ai oublié de parler dans le cadre de nos films. La tentative était de faire nos films aussi avec des équipes exclusivement féminines. On n'y est pas tout le temps arrivé. Et pour différentes raisons, le Covid aussi, c'était compliqué. Donc,
oui, mais quand même.
Clairement, c'est majoritairement féminine, clairement. Donc, moi, j'ai par exemple pas trouvé de mixeuse pour faire mon film, mais sinon, c'était que des femmes. Autre, je pense qu'elle a réussi et qu'elle a tenu tout du long. Juliette, elle travaillait avec moins de monde, alors elle a travaillé aussi qu'avec des femmes. Mais c'était. C'est, en tout cas, moi qui jouais dans le film de Aude, c'était vraiment une expérience tout à fait inédite pour moi de travailler avec en non-mixité, en tout cas. Et c'était très renforçant, très empowerant, comme on dit.
Oui, parce que les hiérarchies, elles changent, en fait.
Les rapports sont différents. La façon qu'on a de se parler, la façon qu'on a d'interagir les unes avec les autres est complètement... C'était vraiment galvanisant comme expérience. Et puis, comme Aude parlait très spécifiquement du sexisme sur les plateaux, qu'on était sur un plateau, que l'ambiance était complètement différente. Et, enfin, en tout cas, je me rappelle à un moment donné, donc, Aude fait parler, c'est une chef opératrice, c'est une comédienne qui joue une parole de chef opératrice. Et à un moment donné, la chef opératrice, donc Camille Langlois, avec qui on travaille, s'est permise... Enfin, c'était entre deux prises, mais tout à coup, elle a pris la parole en disant « Mais en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, dans son secteur spécifique, puis je vais pas vous spoiler le film. » Mais c'était vraiment très fort, en fait, comme moment où sa parole à elle est rapportée dans la fiction, et puis tout à coup, elle peut, en tout cas... donner plus de poids à ce qu'on est en train de dire et à la nécessité de ce qu'on est en train de faire par son expérience personnelle en live, d'une certaine manière. Quoi. C'était vraiment... Il y avait une sorte de mise en abîme et de mise en exergue aussi de la nécessité de ce qu'on était en train de faire. C'était assez bouleversant et oui, ça donnait vraiment une forme de cohésion et de justesse à ce qu'on était en train de faire, d'urgence à ce qu'on était en train de faire, et c'était très soulevant. Mmh. Voilà.
Ben, effectivement, quand on parle du regard, c'est aussi ça, c'est que souvent, le regard, le male gaze, il est stéréotypé, il ne montre qu'une infime facette de ce qu'est notre réalité de femme dans la vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, amicale, sociale. Et donc, le fait d'être à la source, on va dire, de pouvoir avoir son point de vue situé, ben, ça élargit forcément la focale. En tout cas, je me réjouis de voir ces quatre cours. Je vois que le temps passe un peu. On ferait une petite pause musicale. Marie, tu m'avais fait une suggestion et je n'ai pas retenu. Donc, je vais passer à autre chose. Mais on le passera en fin d'émission. On va écouter peut-être le Juana Molina, à qui j'ai coupé le caquet tout à l'heure. Je ne sais pas si vous connaissez Juana Molina, qui est une chanteuse latino, mais qui fait du rock punk assez énergique, et donc elle a fait une petite vidéo aussi qui est circulée sur les réseaux sociaux dans lequel elle dit on peut plus faire de concerts, on peut plus faire de shows, et donc elle commence à faire une vidéo de allez, comment ça s'appelle ce qu'il y a à la télé pour vendre les trucs de télé-shopping en vendant ses disques, mais aussi c'est super drôle. Enfin voilà, on écoute Al Sur, c'est Juana Molina et de No Twist. Et on revient tout de suite après avec Salomé et Marie. Mmh. C'était donc Juana Molina avec Alsour, enfin je dis Juana Molina, mais c'était également de No Twist. Et Juana Molina, c'est donc une Argentine. On est toujours en studio avec Marie Vermeeren et Salomé Richard pour terminer de parler du festival El Tourne de cette année qui commence donc demain jusqu'à dimanche et qui se passera cette année online. Donc Salomé, tu nous as joliment parlé de ces quatre films que vous avez réalisés autour du female gaze. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont vous voudriez parler avant de rendre l'antenne?
De la nécessité de continuer la lutte, en fait, parce que les gens se disent, et c'est super que... Enfin, je veux dire, il y a eu MeToo, puis ça a ouvert un peu la bouche de beaucoup, ça a ouvert l'esprit de beaucoup, les yeux de beaucoup, mais c'est pas du tout fini. Et il y a ce qu'on appelle l'effet backlash qu'il faut vraiment redouter. L'effet backlash, c'est-à-dire que c'est ce qui advient à chaque petit pas durement gagné vers plus de parité, plus d'égalité. C'est que généralement derrière, on a une grosse claque de conservatisme qui se réinstalle avec beaucoup plus de schisme, beaucoup plus de scission, beaucoup plus de... Enfin, encore un écart salarial pire encore et des mesures beaucoup plus drastiques pour... C'est pas conscient, c'est pas juste on va arrêter, enfin on va freiner les femmes dans leur avancée, mais si, il y a plein de mecs là qui chialent en disant qu'il n'y a plus de masculinité, qu'il n'y a plus de vrais hommes et que c'est la faute des femmes qui prennent trop de place. Donc voilà, la crise de la masculinité de nouveau, quoi.
Oui, mais je trouve que les garçons devraient commencer aussi, des garçons devraient aussi commencer à réfléchir un peu sur la situation, justement, qu'est-ce que c'est la masculinité?
Exactement, c'est une lutte qui concerne tout le monde, et le jour où les garçons se rendront compte qu'ils ont besoin, eux aussi, du féminisme...
Oui, mais il y en a qui se rendent compte, hein. Il y en a qui sont... qui savent que...
Oui, mais pas tous. Voilà. Et ce serait super qu'ils arrêtent de dire votre lutte et qu'ils parlent de leur lutte aussi. Voilà.
Mais du coup, effectivement, c'est. Est-ce que vous voyez, vous êtes de générations différentes. Est-ce qu'il y a un effet de génération? Est-ce qu'on voit que qu'il y a une génération qui a été très mobilisée, puis que la génération suivante est un peu plus, pas réactionnaire, mais un peu plus de nouveau macho à défendre justement cette masculinité qui serait soi-disant.
Ça, ce serait comme ma génération
ou celle d'en dessous encore.
Celle d'en dessous encore, ils sont au taquet, ils sont fous, quoi, ils sont géniaux, ils sont incroyables.
Donc c'est plutôt encourageant.
Ça va de mieux en mieux, ouais, je dirais. Ça va de mieux. En tout cas, effectivement, globalement, ça va pas de mieux en mieux. On le voit. Mais dans l'esprit des gens, ouais, ça va de mieux en mieux. Enfin, pour ma part, j'ai l'impression que... Et j'ai l'espoir qu'on est en train de laisser un monde derrière nous. Et c'est ça qui... Ça me réjouit, ça me porte.
C'est pour ça que... Oui. Normalement, on a toujours dit qu'il ne faudrait pas que le fait qu'elle tourne existe encore,
c'est ça.
En fait.
C'est des problématiques, espère, qui sont vouées à disparaître. C'est des nécessités qui... C'est beau de porter un film, un festival et des films et des sujets comme ça dont on espère qu'on n'aura plus besoin, en fait.
Oui, c'est ça. Une fois qu'on sera arrivé, c'est bon, quoi.
Ouais.
Mais on va voir.
C'est comme ta jambe dans le plâtre, elle a fini par guérir.
Voilà.
Oui, tout à fait. On finira par avoir un équilibre et une juste représentation des femmes, des hommes, des films du Sud, de l'Est, de l'Ouest.
Plus pour que tout le monde vive mieux, en fait, dans la diversité, évidemment.
Après, effectivement, c'est l'histoire du gâteau qui doit être répartie. Et donc, au plus il y a des gens à qui le répartir, au plus les parts sont petites, mais...
Ouais,
en culture, c'est peut-être...
Il y en a 3-4 qui ont juste tout le gâteau. Donc
oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça.
Et puis même...
C'est le même sujet, c'est le même problème, en fait.
Oui, parce que moi, parfois, quand je parle de ça, on me dit, oui, mais de toute façon, pour faire du cinéma, franchement, c'est très difficile de faire un film et tout, d'avoir de l'argent. J'ai dit, oui, mais d'accord, mais même s'il n'y a que 10 euros, il faut partager, il faut le quota, quoi. 5 euros, voilà. Et 5 euros.
Bien, si une dernière mini info, sinon on rappelle le site web sur lequel on peut aller.
Donc elle tourne au pluriel bien sûr. Elle tourne.be et vous arrivez tout de suite sur le.
Et là, on a toutes les informations.
Toutes les informations.
On peut s'inscrire pour les panels Zoom. On peut s'inscrire
pour Festival Scope et on a déjà toute l'information pour les films. Donc.
Voilà.
Et le panel pour les quatre films dont j'ai parlé, c'est oui. Le 29 à 14h.
Ok. Le 29, c'est
Le vendredi.
C'est vendredi. Non.
Oui.
Ah oui.
En fait, c'est la clôture. Donc on ouvre avec un panel sur les femmes artistes peintres
oui.
Et on termine le panel avec des femmes artistes
Mais en fait, oui, ce qui n'avait pas percolé dans mon esprit, c'est que ça durait plus longtemps que les autres années,
c'est
en
ça.
Fait.
C'est
voilà,
ça.
Double
Comme
plaisir.
Comme ça, on laisse le temps de regarder les films.
Exactement, on n'est pas obligé de les regarder tous ouais. À la suite sur 4 jours.
Mais d'habitude, on ne pouvait pas puisque c'est dans 2 salles.
Oui, voilà, c'est ça.
Ok,
eh bien donc, grand plaisir. Merci à vous deux d'être venus de grand matin. Et donc, j'ai trouvé le morceau que tu voulais partager, Marie. Donc, c'est Pilou Velvert et c'est la autre amitad. Donc, on se quitte avec ça. Eh bien, donc, n'oubliez pas, elle tourne en ligne. Oui. Préparez vos projecteurs, vos téléviseurs, vos ordinateurs, ou que sais-je, pour visionner tous ces films. Et merci encore, Salomé, Marie.
Merci.
Et à une prochaine.
À ma idée.
La mitad.